France Musique.
Bonjour James Gray.
Bonjour.
Réalisateur, scénariste, Little Odessa, La Nuit Nous Appartient, Two Lovers. Et cette année, Ad Astra, avec Brad Pitt, c'est vous. Vous signez votre première mise en scène d'opéra au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, où nous nous trouvons, Les Noces de Figaro, de Mozart. C'est jusqu'au 8 décembre. D'abord, l'opéra et vous, vous êtes familier de l'opéra. On ne sait pas forcément que vous êtes inconditionnel, fanatique. Ça remonte à quand ?
I can chart it pretty specifically.
Oh, j'ai un souvenir assez précis, en fait. La première fois que j'ai vu un opéra, je devais avoir 7 ans. Mes parents m'ont emmené voir Carmen, mais cela ne m'a pas plu. Mais bon, j'avais 7 ans, j'ai pas tout compris. En fait, j'ai trouvé ça ennuyeux. Mais à New York, l'école publique emmène les enfants dans les écoles publiques un peu défavorisées et ils leur permettent d'aller voir des répétitions au Metropolitan. Et je crois que j'ai vu Aïda avec Leontine Price. Pas mal, hein? Et évidemment, ça m'a ennuyé, mais bon. Néanmoins, le souvenir perdure et je suis particulièrement reconnaissant. J'ai attrapé le virus de l'opéra et vers l'âge de 23 ans, là, je suis devenu complètement accro et je suis arrivé à l'opéra par un CD que j'ai acheté. Herbert von Karajan qui dirigeait des ouvertures d'opéra de Verdi. La musique était incroyable, ça je l'ai compris instantanément en entendant ça. Et le premier opéra que j'ai acheté, c'est Richard Bodinge, la version avec Johann Sutherland et Luciano Pavarotti dans la Traviata. Et à partir de là, je suis devenu obsessionnel.
On entend souvent de l'opéra dans vos films, James Gray, Verdi que vous avez cité, Puccini également dans le film The Immigrant.
Absolutely, I use Puccini.
Ah oui, Puccini, c'est extraordinaire. Vous avez cet homme qui incarne Caruso et qui chante du Puccini, c'est formidable. Il y a une ampleur, une émotion qui me plaît beaucoup dans l'opéra. Et l'opéra, à mon avis, constitue le parent le plus proche du cinéma. C'est onirique, en fait. Donc je suis très attiré par l'opéra pour cette raison. C'est un moyen de mettre en lumière des émotions disproportionnées. Et puis on peut y aller carrément, c'est pas la peine de prendre de la distance, c'est d'une très grande beauté.
Oh! le duo final de la rondine de Puccini qu'on retrouve dans votre film The Immigrant, James Gray. C'est votre première mise en scène ici au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Les Noces de Figaro de Mozart. Comment vous êtes retrouvé à mettre en scène un opéra ici à Paris?
Well, the Metropolitan Opera did not invite me.
À vrai dire, le Metropolitan à New York ne m'a pas invité. S'il m'avait invité, peut-être que j'aurais accepté. Mais je voulais éviter d'essuyer un échec chez moi. Je plaisante, mais Paris, c'est ma ville préférée au monde. Mais si je me plante ici, je peux quand même rentrer chez moi et personne n'aura connaissance de la chose. Donc, je me sens en sécurité à Paris. Voilà, c'est ça. Et en plus, j'adore. À Paris, on peut pas faire mieux. Mais bref, on m'a invité de venir à Paris, c'est aussi simple que ça. On m'a donné cette invitation il y a quelques années, j'ai décliné évidemment parce que quelques années à l'avance, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et en fait, Les Noces de Figaro, c'est pas ma pièce de Mozart préférée. Pour moi, c'est Don Giovanni. Hein. Mais l'acte 4 des Noces de Figaro, c'est un petit peu compliqué, presque caricatural, un petit peu comme une comédie à la télé, si vous voulez. Au fil du temps, j'ai appris à aimer Les Noces de Figaro. Il faut dire que j'ai investi du temps dans l'œuvre de Beaumarchais, de Mozart et de Da Ponti. C'est magistral, cette œuvre. Que dire? On m'a invité. Me voici. Je ne sais pas comment ils m'ont convaincu, mais ils m'ont convaincu.
On aurait pu s'attendre plus à un grand Puccini, à une tragédie lyrique avec, ou qui finit mal. Quand on voit vos films
it's incumbent on me to serve the material.
À vrai dire, moi, je suis au service de l'œuvre. Si on va voir Les Noces de Figaro en s'attendant à de l'obscur et à de la misère, non. Moi, je dois me mettre au service de Mozart et de Da Ponti. Mais pour moi, c'était un défi. Ce serait... En fait, dans mon travail à moi, j'ai toujours suivi la même idée tragique au cinéma. Mais en fait... Quel plaisir de m'adapter à l'aspect de farce de cette œuvre de Mozart. C'est une libération pour moi. Lorsque je travaille sur un opéra comme cela, si jamais je travaille sur un opéra, sauf si on veut plus de moi dans cet art, eh bien, je vais me lancer dans du Puccini. C'est ce que je préfère. Mais là, je me sens à l'aise. En tout cas, c'est très différent de ce que je fais habituellement, vous avez raison.
Alors écoutons un extrait des Noces de Figaro. C'est quoi votre moment préféré, votre morceau préféré? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là, ce matin?
C'est une question difficile. Comme je vous ai dit, dans le temps, je n'aimais pas l'acte 4, mais j'ai appris à l'apprécier. Et l'un des moments les plus étonnants, c'est lorsque Susanna et Figaro, après avoir été tourmentés et trompés, se réunissent dans leur amour. C'est un moment fantastique. Mais d'un point de vue musical, en revanche, c'est très difficile de dire quel est le meilleur moment. Il y a 7 ou 8 moments qui sont inoubliables. Mais j'aime particulièrement le moment où Chérubin chante à la comtesse. Je ne sais pas pourquoi. Hein. D'un point de vue musical, c'est tellement profond et émouvant. Et ça, c'est dans l'acte 2. C'est peut-être ça, mon moment préféré. Mais c'est difficile à dire. Hein. Peut-être. Chérubin et la comtesse, voilà.
gemo senza voler, palpito e tremo senza saper, non trovo pace notte né dì, ma poi mi piace l'aver così. E voi che sapete che cosa è
des Noces de Figaro, votre première mise en scène d'opéra, à l'affiche au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, c'est jusqu'au 8 décembre. Ce sera à écouter sur France Musique le 28 décembre, à la télévision aussi sur France 5 le 14. Notre invité, James Gray. D'abord, c'est quoi vos choix de mise en scène? Le décor, vous avez fait un choix de mise en scène classique, on est plutôt au 18e siècle, plutôt chez Beaumarchais que dans une époque moderne, comme on le voit souvent, notamment à Paris, peut-être plus qu'à New York d'ailleurs. Pourquoi ?
Je ne voulais pas laisser mon empreinte. Il y a les artistes sur scène, il y a la température émotionnelle des scènes et des actes qu'il faut respecter. Et à mon sens, l'œuvre de Beaumarchais et le travail d'Aponte suffisent. C'est pas la peine d'aller dans la salle de presse de Fox News, vous voyez, quel est l'intérêt. Non. Et parfois, on comprend mieux le présent lorsqu'il est éclairé par le passé. Autrement dit, si on est dans une modernité outrancière, il y a des gens qui vous disent, moi j'aime bien avoir quelque chose de frais, mais pour moi ça veut rien dire. Là, tout ce qui est frais, c'est pourri le lendemain. Moi j'aime bien avoir quelque chose qui est intemporel, qui ne répond pas au canon de la mode contemporain. Donc, c'est pas le frais qui m'intéresse, moi, c'est l'honnête. Voilà ce que je veux. Et du point de vue émotionnel, je veux de l'honnêteté sans avoir à me soucier d'un concept éventuel au-dessus de l'émotion.
Qu'est-ce que vous avez dit aux chanteurs? Comment vous les avez dirigés, James Gray?
Well, I think I was probably a shock and a miserable shock.
J'imagine que j'ai été quelque peu décevant, parce que je suis incompétent comme metteur en scène, c'est ma première fois. Je ne sais pas ce que ça veut dire que de diriger un opéra, je ne sais pas du tout quels en sont les tenants et les aboutissants. Donc j'arrive au travail la première journée, et ils me disent « Où est-ce qu'on se met ?» Alors, je sais que les vrais metteurs en scène ont des notions de positionnement. On fait ceci, on fait cela, on chante là, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça, la direction d'acteur. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'encourager les chanteurs à être des comédiens. Pour que l'on fasse bien comprendre les intentions, les émotions de la scène. Il faut que les chanteurs s'écoutent les uns les autres. Généralement, chacun connaît son rôle. Mais il faut qu'ils s'écoutent les uns les autres, il faut qu'ils interagissent. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est ceci. J'ai dit, on va oublier la position sur scène et tout, si vous voulez bien. Pour moi, ça ne veut rien dire. Quelle est l'intention de la scène? Et vous, quelle est votre intention? Quelle est l'intention de votre personnage? Qu'est-ce que vous recherchez? 9 fois sur 10, ils ne savaient pas me répondre. Et pourtant, il faut qu'ils sachent répondre. Parce que si on dit, bon, tu vas aller de là à là, à ce rythme-là, ils savent le faire, il n'y a pas de problème, et ils vont le faire. Mais il faut quand même qu'ils comprennent pourquoi ils vont de là à là. Et si vous leur dites d'aller à telle vitesse de là à là, avec ou sans intention, eh bien c'est le jour et la nuit.
Et comment ils ont réagi?
How did they react?
Ah.
I mean, at first, I think, I mean, I won't speak for them, but at first, I think their reaction.
Il faut leur demander à eux, hein, mais je crois. Qui se sont dit, quoi? De quoi il nous parle celui-là? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais petit à petit, je me suis dit qu'ils avaient compris ce que je voulais dire. Et ça a commencé à transparaître dans leur travail. Et pendant la répétition, au bout de 15 jours, on était toujours dans l'acte 1. On a fait l'acte 1 en entier. Et à ce moment-là, quelle récompense! Quel travail ils ont accompli, ils avaient véritablement compris l'histoire, ils l'avaient intégré, ils se l'étaient approprié, parce qu'il y a le texte, mais il y a aussi le texte qui est en creux. Et quand on travaille, quand on dirige, il faut s'intéresser au sous-entendu. C'est pourquoi la tragédie, le drame, la comédie, c'est génial. On peut dire « je t'aime » ou « va, je ne te hais point ». Il faut s'intéresser à ce qui n'est pas dit. L'émotion, c'est de l'expression, et c'est cette expression-là qu'on essaye d'atteindre.
Un opéra, James Grace, c'est des chanteurs, c'est aussi un chef dans la fosse. Ce chef, c'est Jérémy Rohrer, qui dirige son orchestre, le Cercle de l'Harmonie. Comment ça s'est passé avec lui ? Amour ou haine ?
Jérémy est génial. Jérémy
est formidable. S'il y a quelque chose dans la musique de Mozart que je rate, il me le dit. Mais la plupart du temps, il laisse faire. Il m'a beaucoup respecté pendant les répétitions. Je crois que Jérémy a bien compris ce que je voulais faire. Mais en même temps, moi, je comprends très bien ce qu'il me dit, ce qu'il fait, parce qu'il peut m'aider du point de vue musical, il peut me dire quelles sont les intentions d'expression de Mozart dans tel ou tel passage, et cela renseigne mon travail auprès des chanteurs, et ce que j'essaye de puiser chez eux. Le metteur en scène doit donner des indications sans être tyrannique. Il faut être à l'écoute des idées que je juge meilleures que les miennes. Mon rôle, c'est de mettre mon ego de côté. Il ne faut pas que je dise, voilà, les choses sont comme ça, je vais faire ça. On pourrait faire ça, certes, mais en réalité, c'est mieux de dire, ah, ça c'est une bonne idée aussi, ça. Intégrer les idées différentes des miennes, ça c'est bien. Et Jérémy a été d'une immense utilité. En fait, c'est un travail d'équipe, voilà.
Thank you.
Una Furtiva Lacrima, l'élixir d'amour de Donizetti avec Luciano Pavarotti, l'orchestre de chambre anglais dirigé par Richard Boninch. C'est une musique que vous utilisez, James Gray, dans votre film Two Lovers. Vous utilisez, on l'a déjà dit tout à l'heure, beaucoup d'opéras dans des migraines, y compris l'histoire qui est inspirée de Suor Angelica de Puccini. Qu'est-ce que ça apporte, l'opéra, dans un film, au cinéma ?
L'ampleur, l'émotion, la profondeur de la musique d'opéra constitue une force, une lumière dans la nuit. Ça explique la façon dont il faut que la comédienne joue et soit sur scène. Bien souvent, je sais quelle musique je vais utiliser avant le tournage et je fais écouter la musique aux comédiens pendant le tournage. Stanislavski a dit que la musique, c'est le chemin le plus direct vers le cœur. Et c'est incroyable. Vous faites entendre la musique aux comédiens et tout à coup, les comédiens comprennent ce que vous voulez dire du point de vue émotionnel. Et du reste, c'est ce qu'on faisait dans le film muet. Les réalisateurs faisaient entendre de la musique pendant le tournage. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça à tout bout de champ, mais on peut le faire avant la scène ou lorsqu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je fais toujours entendre de la musique aux comédiens pendant qu'ils tournent. C'est très important. Et je fais ça depuis The Yards.
On parle parfois de films en disant ils sont opératiques. D'ailleurs, même votre dernier film, Ad Astra, qui sortira en janvier en DVD, on a dit que c'était un space opéra. Ça veut dire quoi pour vous ? En quoi certains films peuvent être opératiques ?
That's a very good question, because I think
c'est une très bonne question. Parce que par opératique, on entend mélodramatique, mais c'est faux. Le mélodrame, c'est très beau. Mélodramatique, c'est quand même assez péjoratif. Ça signifie que c'est mélo, c'est surjoué. Un film opératique, à mon sens, c'est un film qui intègre des émotions surdimensionnées avec un engagement complet vers les émotions. Autrement dit, je ne sais pas si vous connaissez Rocco et ses frères. Là, c'est un film particulièrement opératique. Les émotions sont surdimensionnées. Quelle profondeur! Des gens qui pleurent, des gens extrêmement joyeux. Mais tout est justifié. Parce que les comédiens sont sincères, le film est sincère, le film croit aux émotions des personnages. C'est ça qui rend le film opératique et pas mélo. Donc opératique, ça signifie que l'on intègre les aspects les plus larges du dilemme de l'homme.
C'est votre premier opéra, James Gray, mais c'est aussi votre premier spectacle sur scène. C'est en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe. Est-ce que ça vous fait peur, vous qui êtes habitué depuis toujours dans votre travail d'artiste, à couper ?
Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas choisir ce que les spectateurs regardent. Au cinéma, en revanche, quand vous faites un gros plan, là, vous ne laissez pas le choix au spectateur. Alors que le public, au théâtre, peut regarder ce qu'il veut sur scène. Cela dit, il y a le procédure, on peut faire venir les comédiens à l'avant-scène ou pas, mais bon, c'est quand même assez restreint. Mais en même temps, c'est une libération, parce que l'œil du spectateur peut regarder différentes choses sur scène, à sa guise. Donc c'est vrai, je n'ai pas cette liberté.
Cette expérience-là, ici à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, elle vous donne d'autres envies d'opéra pour plus tard ?
Right now, I'm living in fear of...
Eh bien... Pour le moment, j'ai peur que mon travail soit horrible, j'ai peur de me faire huer, j'ai peur qu'on dise « mais qu'est-ce qu'il a fait là, c'est horrible ». Donc, me voici dans ma ville préférée et j'espère que je ne partirai pas avec du goudron et des plumes.
Merci James Gray. Les Noces de Figaro de Mozart. Avec Jérémy Rohrer dans la fosse, le Cercle de l'Harmonie, beaucoup de chanteurs, dont Stéphane Degout. C'est jusqu'au 8 décembre. Ce sera à la radio sur France Musique le 28 décembre. On entendra un peu les bruits sur scène. Ce sera à la télévision le 14 décembre sur France 5 avec une captation vidéo. Merci.
De rien.
Merci, James Gray. On se quitte avec le final des Noces de Figaro de Mozart à voir. au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le final des Noces de Figaro de Mozart dans la belle version de l'orchestre de chambre d'Europe dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Les Noces de Figaro mises en scène par James Gray. C'est donc au Théâtre des Champs-Élysées à Paris jusqu'au 8 décembre, puis à l'Opéra National de Lorraine du 31 janvier au 9 février. Une version écoutée sur France Musique dans un mois, le 28 décembre à 20h en compagnie de Judith Chen.
À réécouter sur francemusique.fr.